France Info. Notre invité ce matin est la présidente du Front National, Marine Le Pen, Jean-Michel Apathy.
Bonjour Marine Le Pen.
Bonjour.
Nicolas Sarkozy est donc mis en examen depuis hier dans le supposé financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007 et l'ancien président de la République s'est défendu hier soir sur le plateau de TF1.
Je veux dire la profondeur de mon indignation. Je ne suis pas venu ici pour parler de politique, je suis venu ici parce que je dois aux Français la vérité, je n'ai jamais trahi leur confiance. On n'a pas le droit de jeter les gens à la boue parce qu'une bande d'assassins, d'escrocs, de menteurs, de manipulateurs a fait ce qu'ils ont fait.
C'était une interview assez prenante, assez forte. Comment réagissez-vous ou comment avez-vous réagi en entendant Nicolas Sarkozy se défendre ?
Mais j'ai pas à réagir parce que je suis pas magistrat. Voilà. Je pense qu'il y a des magistrats qui sont saisis de cette instruction. J'avoue que la dérive consistant à faire maintenant systématiquement les instructions dans la presse me pose comme avocat et à la limite comme justiciable un problème. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est une affaire qui sera très lourde de conséquences si les faits sont avérés. Voilà. Là où Nicolas Sarkozy peut-être a raison dans ce qu'il a dit hier, c'est qu'en réalité, il en va de l'image de la France tout entière. Si les faits sont avérés, ça n'est pas seulement une affaire de financement illégal de campagne. C'est une affaire, encore une fois, de guerre, de chefs d'État éliminés, de pays très lourdement et gravement déstabilisés, d'une des raisons quand même de la submersion migratoire que vit l'Europe à la suite de l'effondrement du régime de Monsieur Kadhafi. C'est très grave dans les conséquences. Et c'est pour ça que j'ai dit d'ailleurs que j'aurais souhaité que les magistrats chargés de cette instruction soient des magistrats sur lesquels ne puisse peser aucun soupçons. Or, il y a une longue histoire entre Monsieur Tournaire et Nicolas Sarkozy. Une grande partie des affaires qui touchent Nicolas Sarkozy ont été instruites par Monsieur Tournaire. Et je crois que là, on n'a pas les conditions, objectivement, d'une absence totale de soupçons sur les relations d'hostilité qui les lient.
Voilà. Serge Tournaire instruit le volet Big Malion, donc le financement de la campagne de 2012. Ça ne dit pas une
mais
hostilité.
Mais pas seulement. Il a aussi instruit l'affaire Fillon. Enfin, si vous voulez, il y a quand même. Non, mais il y a quoi ? Il y a trois juges en France d'instruction.
C'est le pôle financier.
Je ne sais pas, mais comment vous pouvez.
Non, mais moi, ça me pose un problème. En tant qu'avocat, ça me pose un problème.
Comment vous pouvez aller de ce constat que le juge Tournaire est en charge de l'affaire Big Malion. Bon, Fillon, c'est autre chose, mais comment vous pouvez aller de ce constat à l'affirmation selon laquelle il y a entre Nicolas Sarkozy et le juge un contentieux ?
Enfin, écoutez, Monsieur Tournaire a mis en examen dans l'affaire Big Malion. Je ne juge pas du fond, encore une fois, je ne connais pas le dossier. Nicolas Sarkozy, contre l'avis des deux juges avec lesquels il instruisait. Rien que cela aurait nécessité qu'un autre juge soit chargé de cela. Voilà, c'est tout ce que je dis. Je trouve étonnant qu'il y ait des juges qui soient affectés à tel ou tel parti politique, en quelque sorte, et que, à chaque fois qu'une critique est formulée contre un parti politique, y compris sur le plan judiciaire, ce soit toujours devant le même juge que les affaires arrivent. Ça me pose un problème. Voilà. Je pense que c'est de nature à susciter des soupçons. Or, dans cette affaire, parce qu'elle est particulièrement grave, il aurait fallu faire en sorte qu'il n'y ait aucun soupçon qui puisse peser sur la manière dont est dirigée l'instruction.
Il y a un manque d'impartialité de la justice.
Ah mais moi je considère qu'un certain nombre de juges manquent d'impartialité.
Et notamment Serge Tournaire.
Et pour une raison très simple,
notamment
monsieur Apathy.
Serge Tournaire.
Et pour une raison très simple, c'est qu'un certain nombre de juges sont liés ou très liés au syndicat de la magistrature, que le syndicat de la magistrature est un syndicat gauchiste qui appelle à voter contre tel ou tel candidat régulièrement, moi je le sais puisqu'ils ont appelé à voter contre moi, et même à me combattre par tous les moyens possibles, ce qui pose quand même là aussi un certain nombre de questions. Donc oui, il y a un problème de politisation d'un certain nombre de magistrats dans notre pays auquel personne ne veut s'attaquer.
Ça c'est un propos général que vous appliquez donc à Serge Tournaire.
Il y a entre, en tout cas, moi j'ai vu des pétitions du syndicat de la magistrature signées par Monsieur Tournaire. Ça me pose un problème. Ça crée des doutes. Ça crée des interrogations. Or la justice ne doit pas faire l'objet ni de doutes ni d'interrogations.
Au début de votre propos, Marine Le Pen, vous avez fait un lien entre l'affaire du financement supposé libyen ou du supposé financement libyen de la campagne de 2007 et la mort de Mouammar Kadhafi. Vous avez dit peut-être que ça nous amènera à réviser l'histoire avec. Il y a eu la mort de dirigeants politiques. Oui, vous avez.
Non, je n'ai pas mentionné la mort de. Je n'ai pas parlé de réviser l'histoire.
Est-ce que vous faites un lien entre ce qui est arrivé finalement au colonel Kadhafi et le financement? Est-ce que vous pensez que la France a déclenché l'action en 2011?
Je ne pourrais pas faire de lien. Non, mais comment voulez-vous que je fasse un lien alors que nous en sommes au niveau de l'instruction et que pour l'instant les faits dont il est accusé n'ont pas fait l'objet d'un jugement par un tribunal.
Vous l'avez évoqué au début de votre réponse.
Mais si c'était le cas, évidemment qu'on serait obligé de se poser des questions sur les motivations de cette guerre, dont vous pouvez quand même admettre que je l'ai toujours condamnée, que j'ai prévu qu'elle allait entraîner une véritable catastrophe, que ce soit une catastrophe humanitaire ou une catastrophe politique, que nous allions en subir les conséquences, après évidemment que le peuple libyen en ait subi lui-même les conséquences.
Vous avez rappelé que vous étiez avocate. Ce contrôle judiciaire imposé à Nicolas Sarkozy, évidemment il est en colère contre ce contrôle judiciaire, est-ce qu'il vous paraît justifié?
Enfin, si vous m'interrogez comme avocat, non.
C'est bien la question.
Bah évidemment que non. Enfin, on imagine bien que Nicolas Sarkozy ne va pas se précipiter pour aller passer des vacances en Libye ou en Tunisie. Et quant à ceux qu'il a l'interdiction de voir, permettez-moi de vous dire que ça fait 5 ans qu'il doit les voir à peu près toutes les semaines. Donc venir aujourd'hui lui interdire de les voir, je pense que c'est, à mon avis, superfétatoire.
C'est excessif de dire que vous défendez Nicolas Sarkozy ce matin?
Oui, c'est tout à fait excessif. D'accord. Mais vous savez,
c'est le sentiment qu'on peut avoir.
Oui, mais monsieur Patti, je vais vous dire pourquoi vous avez ce sentiment.
D'accord.
Parce que vous vous débarrassez assez facilement des principes.
Ah, c'est vrai?
Moi, vous voyez, je crois à la force des principes.
Moi aussi.
La force des principes, c'est de les mettre en œuvre, y compris quand c'est contre un adversaire politique, y compris quand l'action est contre un ennemi, et même contre un ennemi. Voilà. Eh bien, moi, j'ai des principes.
Quel principe?
Pardon.
Quel principe?
Mais le principe de la présomption d'innocence. Alors parfois, on peut être tenté, évidemment, on peut être tenté d'oublier, de mettre de côté ses principes parce que c'est un adversaire politique et que c'est facile. Eh bien, quand on a cette tentation-là, il faut essayer de la combattre. Parce que, encore une fois, la force d'un principe, c'est qu'elle s'applique à tous, même à nos ennemis, même à nos adversaires.
Et nous avons souvent rappelé sur France Info que Nicolas Sarkozy est présumé innocent.
Oui, bien sûr, mais enfin, vous voyez bien qu'il y a un vrai sujet, que la simple garde à vue entraîne évidemment une très lourde suspicion de culpabilité. C'est de pire en pire et c'est assez objectivement récent. Donc, il faut encore une fois s'interroger là-dessus. Maintenant, moi, je laisse les juges faire leur travail, et je n'ai absolument, aucun élément supplémentaires par rapport à ceux qui sont dans vos journaux ou sur vos plateaux de radio.
Marine Le Pen, vous restez avec nous, il est 8h41, voici l'essentiel de l'info avec Edwige Coupez.
La CGT veut tenter la convergence des luttes et appelle à une nouvelle journée d'action. Ce sera le 19 avril prochain. Mobilisation interprofessionnelle, cette fois, et une décision unilatérale, apparemment de la centrale. En tout cas, FO n'était pas au courant. C'est ce qu'a dit son leader Jean-Claude Mailly ce matin sur France Info. L'avocat de Nicolas Sarkozy va faire appel du contrôle judiciaire de son client, mis en examen dans l'affaire d'un possible financement libyen de sa campagne de 2007. L'ancien chef de l'État n'a pas le droit de se rendre en Libye, notamment, ni de rencontrer les protagoniste de l'affaire. Thierry Herzog ajoute qu'il va prouver son innocence. Les juges, les procureurs, 8 accusés du groupe de Tarnac, tous dans le même bus. Cet après-midi, le tribunal correctionnel de Paris se rend en Seine-et-Marne sur les lieux du sabotage du TGV en 2008. Déplacement à la demande de la défense qui veut montrer les incohérences de l'accusation. Donald Trump joue finalement la carte de l'apaisement sur le dossier de l'acier et de l'aluminium. Les droits de douane qui devaient s'appliquer à partir d'aujourd'hui sont finalement suspendus jusqu'en mai 2008, du moins pour les principaux alliés des États-Unis, dont fait partie l'Union européenne. Le président américain annonce en revanche des mesures de rétorsion contre la Chine.
Marine Le Pen, députée, présidente du Front National, est l'invitée de France Info ce matin. Jean-Michel Apathy.
Hier après-midi, des centaines de milliers de personnes se sont retrouvées dans les 180 défilés qui se sont produits dans les villes françaises. Il s'agissait de défendre, selon les manifestants, le service public ou bien aussi de dénoncer la réforme de la SNCF.
C'est la casse du service public dans son ensemble, avec des fermetures de lignes, des fermetures de gares, de guichets. Aujourd'hui, vous avez tous les métiers qui sont représentés.
Nous, on est des agents territoriaux, on travaille dans les écoles. Et tous les jours, on s'aperçoit que on a de moins en moins de moyens.
Je travaille dans un lycée qui est difficile, en banlieue. avec des élèves qui ont besoin d'être bien encadrés. Et qu'est-ce qu'on vient de nous faire ? Eh bien, on nous supprime un poste de CPE.
Ils ont raison, ces gens qui manifestent, Marine Le Pen ?
Bah, c'est-à-dire que, clairement, il y a la volonté de la part de M. Macron de se débarrasser des services publics. Je crois que c'est clair. C'est d'ailleurs dans sa philosophie politique. Hein, il se présente comme un ultralibéral. Et par définition, les ultralibéraux ont plutôt tendance à considérer que les services publics sont une charge et qu'il faut transférer au privé le soin d'offrir à ceux qui ont les moyens de se le payer tel ou tel service. Voilà.
Vous dites qu'il se présente comme un ultralibéral, il l'a jamais dit aussi, il y a des discours qui m'ont échappé, il l'a dit.
Il faut vraiment avoir peu de capacité d'analyse pour pas se rendre compte que il est un mondialiste, décomplexé d'ailleurs, hein, et qu'il est effectivement dans une vision qui est une vision ultralibérale.
Et se débarrasser des services publics, lui dit, il faut les moderniser. C'est un mensonge de présenter les choses comme ça,
je crois que c'est mensonger de présenter les choses comme cela, car en réalité, Emmanuel Macron ne fait qu'obéir à la stratégie qui est imposée par l'Union européenne, qui a été soutenue d'ailleurs par les mêmes syndicats qui appellent à manifester aujourd'hui, mais ils sont pas à une contradiction près, hein, me direz-vous, et qui impose au fur et à mesure, d'abord l'ouverture à la concurrence, dont on sait qu'elle est le premier palier vers la privatisation.
Ces manifestants demandent... C'est assez simple, hein. Des postes, de l'argent. Le dernier qu'on a entendu, c'est on nous a supprimé un poste dans l'école où je suis. Il faut créer des postes de fonctionnaires.
Oui, mais excusez-moi de ne pas me caler sur les revendications de la CGT. Hein. Encore une fois, je me souviens d'ailleurs que M. Martinez avait indiqué, avant le second tour de l'élection présidentielle, qu'il souhaitait qu'Emmanuel Macron soit élu avec le plus grand nombre de voix. Peut-être aurait-il dû démissionner, là, maintenant, en se rendant compte de la politique qui est menée.
Il fait la même analyse que vous concernant Emmanuel Macron. Traite de libéral. Comme vous le faites.
Oui, mais moi, j'ai pas la responsabilité de l'avoir fait élire.
Et
voilà, vous voyez, c'est une grosse différence. Quand même.
Et il dit, il veut supprimer les services publics.
Et alors, pourquoi il a voté pour lui ? Car Emmanuel Macron a toujours dit qu'il allait faire cela. Moi, je pense aux campagnes où toutes les petites classes sont supprimées. Je crois que c'est 300 classes dans la ruralité qui vont être supprimées, alors que on donne, comme d'habitude, un avantage, en quelque sorte, aux banlieues françaises. La même politique menée depuis des années.
Il faut créer des postes supplémentaires.
Mais il faut arrêter l'injustice entre les banlieues qui sont surfinancées et la ruralité qui est totalement abandonnée. C'est pour ça que j'ai proposé moi un bouclier rural qui consiste à dire à chaque fois qu'on met un euro dans la banlieue, on met un euro dans la ruralité. Parce que la ruralité est en train de mourir. Et l'ouverture à la concurrence, on sait bien quelles conséquences ça va avoir. Évidemment, on va fermer les petites lignes non rentables parce que on va se concentrer sur les lignes rentables. Donc dans la ruralité, on ferme les hôpitaux, on ferme les maternités, on ferme les gares, on ferme les écoles. On crée la désertification de notre pays. Je crois que c'est une très grande régression dont Emmanuel Macron, évidemment, va être responsable car il va accélérer ce processus.
La question des salaires est aussi au centre des revendications. Il y a eu la hausse de la CSG. Est-ce que vous pensez qu'il faut revaloriser les salaires des fonctionnaires ?
Ce qui est sûr, c'est que le gel, honnêtement, du point d'indice des fonctionnaires, ça dure quand même depuis déjà très longtemps.
2011.
Et qu'il commence à en subir... très certainement les conséquences en matière de pouvoir d'achat. Mais il n'y a pas que les salaires. Il y a non seulement des salaires qui ne bougent pas, mais il y a également à côté toute une série de taxes, d'impôts supplémentaires nouveaux qui sont créés. On l'a vu, l'augmentation du diesel, de l'essence, du timbre, des mutuelles, des assurances, etc., etc. Et tout cela, évidemment, ampute le pouvoir d'achat des Français qui, aujourd'hui, pour une partie d'entre eux, ne s'en sortent plus.
Et les salaires, du coup ?
Eh bien, donc,
est-ce qu'il
vous
faudrait
ai dit
les revaloriser
sur la... je vous dis que le gel du point d'indice devrait assister à un dégel du point d'indice. Mais parallèlement à ça, il faudrait arrêter d'augmenter de 20% la CSG sur les retraités. Mmh. Est-ce que vous vous rendez compte, un impôt qui augmente de 20%, est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça représente ? C'est considérable.
Et est-ce qu'il faut créer des postes dans les hôpitaux, dans les...
Il faut d'abord régler le problème de l'immigration, Monsieur Apathy.
Mais parce que je vous parle des postes.
Non, mais moi je vais vous répondre.
Vous parlez de l'immigration.
Mais je vais vous répondre, il n'y a pas, excusez-moi, mais il y a un lien direct entre les deux.
Pas, mais...
Car l'hôpital public aujourd'hui est submergés par l'immigration. On leur demande de prendre en charge, mais bien sûr que oui, on leur demande de prendre en charge l'aide médicale d'État, la prise en charge médicale d'un nombre considérable de personnes, alors même que les moyens qui sont accordés à l'hôpital ne le permettent pas. Donc moi, je pense qu'il faut d'abord régler le problème de l'aide médicale d'État, régler le problème de l'immigration clandestine, régler le problème d'une immigration légale qui est beaucoup trop importante par rapport à nos capacités. Et de fait, ça réglera déjà une partie des problèmes de l'hôpital, peut-être de l'école d'ailleurs. Et puis, quand tout cela sera fait, alors on verra s'il est nécessaire qu'il y ait des postes supplémentaires, bon, dans tel ou tel secteur d'ailleurs.
Statut des cheminots est au cœur de la réforme. On écoute un cheminot.
On parle beaucoup des avantages, mais il y a quand même beaucoup d'inconvénients. Moi, je viens du privé. Depuis que je suis à la SNCF, j'ai jamais autant bossé. Les nuits, les week-ends. Donc c'est quand même pas mal de sacrifices.
La fin du statut des cheminots pour les nouveaux entrants à la SNCF, horizon 2020-2022, c'est une réforme nécessaire ou pas, Marine Le Pen ?
Non, mais que l'on puisse remettre à plat le statut des cheminots dans le cadre de discussions avec les syndicats, moi ça me pose aucun problème.
Est-ce que vous êtes pour la fin du statut ?
Mais
ma question est plus précise que ça. Est-ce que vous êtes pour la fin du statut ?
Non, je vous dis qu'encore une fois, que l'on remette à plat un certain nombre d'avantages qui aujourd'hui peut-être ne peuvent plus être livrés. Je pense, mais est-ce que c'est vraiment le problème de la SNCF ?
Mais je vous pose la question, si vous êtes
pas. Mais moi, je vous pose la question, est-ce que c'est vraiment le problème de la SNCF ?
Je ne sais pas, je vous pose la question.
Parce que moi, on me présente ce statut des cheminots comme quelque chose d'extraordinairement agréable. Mais je connais pas beaucoup de responsables politiques qui critiquent le statut des cheminots et qui suggèrent à leurs enfants de devenir cheminots. Vous voyez, bon. Donc c'est que ça doit pas être si agréable que ça, ou si extraordinaire que ça. Je pense qu'il y a un certain nombre de régimes spéciaux. Il y a un régime spécial pour les militaires. Il y a un régime spécial pour les pêcheurs.
Vous parlez de la retraite.
Oui. Il y a des régimes spéciaux. Il y a des statuts particuliers. On peut envisager à un moment donné de dire, écoutez, ça, je pense que ça ne se justifie plus. Votre avantage fiscal de journaliste, ça se justifie plus.
Oui, d'accord. Bon. Mais c'est pas le débat.
Voilà. Peut-être que les avantages qui sont accordés.
Pour les députés non plus.
Oui, mais ça n'existe plus. Il se trouve, voyez.
Il n'y a aucun avantage à être.
Non, non, les avantages de retraite, etc., n'existent plus.
Non, mais la prime obsèque a été diminuée.
Mais encore une fois,
est-ce que c'est le sujet ? On ne saura pas votre position, pardon d'insister.
Est-ce que c'est le sujet ?
Non, vous répondez à une question par une question, ce qui est une
Alors, je vais répondre plus clairement, disons que c'est une manière de parler, alors je vais être peut-être plus basique.
Allez-y.
Simple et basique.
Le statut des cheminots n'est pas la raison de la dette de la SNCF. C'est clair ?
Voilà, c'est clair.
Donc on n'y touche pas.
On peut y toucher. On peut y toucher. Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas, encore une fois, de discussion qui ne puisse pas être ouverte. Bien sûr qu'on peut en discuter. Bien sûr qu'un certain nombre de salariés d'entreprises publiques bénéficiaient d'avantages qui ont été supprimés parfois au fur et à mesure du temps. Est-ce qu'une partie des avantages dont bénéficient les cheminots peuvent être supprimés ? Oui, très certainement. Mais faire croire que c'est le statut des cheminots qui est à l'origine de la dette de la SNCF, ça, c'est un mensonge.
Voilà. En vous écoutant, vous savez, je me dis, après tout, Philippe Martinez, vous êtes assez proche, quoi.
Oui, mais parce que vous êtes un petit peu un type de droite bornée qui considère que dès qu'on parle service public, il faut immédiatement venir avec sa massue pour taper sur la tête des fonctionnaires. Une position qui est très équilibrée. Je pense qu'il y a trop de fonctionnaires dans la fonction publique territoriale, je l'ai dit, et si il y a des efforts à faire, c'est dans ce domaine. Je pense qu'il n'y a pas assez de policiers, je pense qu'il n'y a pas assez de magistrats, je pense qu'il n'y a pas assez d'infirmières et de médecins. Donc vous voyez, j'ai une vision qui est équilibrée, mais je tiens au service public. Pense que le service public ne peuvent pas... on peut pas mettre un trait d'égalité entre les services publics et le comportement de la CGT, monsieur Apathy, pour parler à ceux qui peut-être pensent comme vous. Je pense que les services publics, c'est ce qui permet encore une fois aux Français les plus modestes de se soigner, de s'instruire, de se déplacer. Et ça, j'y tiens.
Vous restez avec
nous. La droite bornée ne répondra pas.
Vous restez avec nous. Marine Le Pen, 8h52, l'essentiel de l'info de Pichecoupèze.
Je vais faire appel du contrôle judiciaire de Nicolas Sarkozy. Son avocat, Thierry Herzog, y voit en effet une forme d'humiliation, dit-il, de l'ancien chef de l'État. Hier, pendant 25 minutes, Nicolas Sarkozy a clamé son innocence sur TF1. Il se dit victime de l'ignominie du clan Kadhafi et de Mediapart. Une nouvelle grève à Air France aujourd'hui. Des perturbations sont à prévoir. Un quart des vols supprimés. Une journée d'action à l'appel de l'intersyndicale pour réclamer une hausse de 6% des salaires. tout métier confondu, des hôtesses aux pilotes jusqu'au personnel au sol. Et au lendemain de la mobilisation des fonctionnaires et des cheminots, la CGT appelle à une nouvelle journée d'action. Ce sera le 19 avril prochain. Vous me l'apprenez, a affirmé ce matin sur France Info Jean-Claude Mailly de FO. La CFDT cheminots, elle, met en garde contre un mélange des luttes et un risque de confusion. Le lancement du SIDAction, 3 jours pour faire un don par téléphone au 110 ou bien en ligne sur sidaction.org. Pour les malades et pour la recherche sur le VIH, 6000 personnes découvrent chaque année en France leur séropositivité.
Info. Marine Le Pen est l'invitée de France Info, Jean-Michel Apathy.
Dimanche se déroulera le deuxième tour de l'élection législative partielle à Mayotte. Vous soutenez là-bas le candidat des Républicains ?
Je soutiens là-bas le candidat soutenu par Mansour Kamardine.
Oui, d'accord.
D'accord.
Quelle est la situation à Mayotte selon vous ?
Je pense qu'on assiste à l'abandon total des Mahorais, non-assistance à Français en danger. Que le gouvernement est absent, que le président de la République n'a pas eu un mot sur Mayotte, alors que la situation y est objectivement catastrophique, et alors même que les Comores viennent de nous cracher au visage, non seulement en remettant en cause, mais ça c'est pas nouveau, l'intégrité territoriale de Mayotte, mais de surcroît en refusant d'admettre les clandestins comoriens qu'on leur renvoyait. Ceci aurait nécessité de convoquer en urgence l'ambassadeur des Comores. Rien n'a été fait. Les moyens ne sont pas donnés à Mayotte. C'est un état d'urgence qu'il faut mettre en place là-bas, avec toute une série de mesures que je proposerai d'ailleurs dans le cadre d'une proposition de loi que je dépose sur Mayotte, parce que la situation est objectivement catastrophique.
À Mayotte, donc, où se déroulera dimanche le second tour de l'élection législative partielle.
Et oui, mais Mayotte surtout, Mayotte surtout,
avec une proposition de loi
Mayotte
sur la
surtout, parce que peut-être que ceux qui nous écoutent ne le savent pas, ouais. Où il y a plus de la moitié de la population qui est étrangère, et 80% de clandestins, où l'insécurité a atteint des niveaux qui est inouï dans notre pays, avec quasiment un couvre-feu à la tombée de la nuit, parce que les gens ont peur pour leur vie, et encore une fois, on les laisse totalement à l'abandon. Je pense que cette situation ne peut pas durer, et j'attends du président de la République maintenant non seulement des paroles fortes, mais des actes forts.
Vladimir Poutine a été réélu dimanche dernier, président de la Fédération de Russie. Nous sommes face à une crise diplomatique qui, la France est solidaire de la Grande-Bretagne. Theresa May a dit ceci hier au sommet européen à propos de l'empoisonnement dont a été victime Sergueï Skripal et sa fille. Sergueï Skripal est un ancien espion russe. La Russie est très probablement responsable de l'attaque de Salisbury. Il n'y a pas d'autre explication possible, dit Theresa May. Partagez-vous ce jugement
La justice est rapide en Grande-Bretagne, hein, parce qu'en l'espace de quelques jours, on détermine qui est le coupable, etc.
C'est-à-dire que le poison utilisé ne peut pas être manipulé visiblement ou produit par d'autres que par
est-ce que l'histoire
d'État
ne doit pas nous rendre un petit peu modestes par rapport à ce genre d'événement? Est-ce que ce qui arrive sur les plateaux avec des petites bouteilles, les agitant en disant « nous avons trouvé les armes de destruction massive de Saddam Hussein », tout cela doit quand même nous pousser à être prudent dans ce genre de domaine. Alors, je m'étonne que la Grande-Bretagne soit aussi affirmative. Je ne parle même pas des déclarations de Boris Johnson, que j'ai trouvé tout à fait outrancière, faisant un parallèle entre Vladimir Poutine et Adolf Hitler. J'ai le sentiment qu'il y a autre chose derrière cela, qu'il y a une volonté, qu'il y a une volonté stratégique de mettre une forme de mur, peut-être, entre la Russie et l'Union européenne. Pour avoir été député européen, que l'Union européenne mène une véritable guerre froide à la Russie.
De la part de Theresa May, qui n'est pas très européenne,
oui, mais qui
ça
est
n'est
très,
pas tout
oui,
à fait
mais qui
évident,
est très américanophile, quand même. Pardon.
Non, pas vraiment.
Si.
Le rapport avec Trump n'est pas très bon. Hein.
Oui, mais ne vous laissez pas avoir par des problèmes de personnes. Historiquement, la Grande-Bretagne et les États-Unis sont engagés de manière extrêmement proche dans la défense de leurs intérêts qu'ils considèrent comme communs. Et il est vrai que moi, je crois que l'intérêt de la France est de continuer à avoir des relations avec la Russie
et même
d'approfondir les relations avec la Russie.
Quelle que soit l'attitude de la Russie.
Dans
le maniement de ce poison-là, personne ne voit d'autres personnes capables de le manier que la Russie.
Quel acte hostile la Russie a-t-elle commis à l'égard de la France ?
De la France, je ne sais pas, mais...
Quel acte hostile la Russie a-t-elle commis à l'égard de la France ?
Aller faire tuer quelqu'un dans un pays étranger, ça n'est pas la première fois que la Russie est mise en cause.
Mais monsieur Apathy,
c'est une violation de la souveraineté à laquelle
vous
êtes attaché.
Donc vous êtes en même temps procureur, juge, etc. Bon, moi, encore une fois, je pense qu'une enquête doit avoir lieu. Pour l'instant, elle n'a pas lieu. Et j'ai vu, par le passé, des accusations formulées contre tel ou tel pays qui répondaient à des stratégies, à des opérations géopolitiques. Et on s'est rendu compte, quelques années plus tard, que ces accusations n'avaient pas de fondement. Donc permettez-moi, là encore, d'en revenir à mes principes et de rester prudente.
Bien. Merci beaucoup, Marine Le Pen. Bonne journée à vous.